Bonjour. Ah, c'est mieux, ça marche. Je vais attendre que les quelques dernières personnes s'installent. Je ne sais pas, vous d'ici, enfin vous de là où vous êtes, mais vu d'ici, c'est impressionnant. Vachement nombreux. Alors, je suis très heureux de vous accueillir ici. C'est le cinquième printemps agile. C'est chouette, c'est la deuxième fois qu'on est ici au centre des congrès de Caen. Un petit instant, une question technique. Voilà. C'est le cinquième printemps agile. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir vous accueillir ici. Le printemps agile a commencé, les premières éditions, il y avait moins de 50 personnes. Aujourd'hui, on est à plus de 600 inscrits. Donc on est très content de voir que ça se développe en Normandie. D'abord, on va commencer par remercier tous les sponsors qui nous permettent de faire cet événement, de vous accueillir, de faire en sorte que ce soit gratuit pour tout le monde, de vous accueillir dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, quand on parle d'agilité, en fait, on constate, c'est ce que beaucoup nous disent, que l'agilité, en fait, est ancrée en Normandie. On sent que ça concerne tous les secteurs d'activité. On sent que l'agilité, c'est pas seulement une méthode de travail qui concerne, comme c'était au début, les entreprises de l'informatique, les start-up, les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on voit que l'agilité, en fait, se déploie dans tous les secteurs d'activité, si vous voulez. On a, bien sûr, le monde informatique, mais on a aussi l'industrie, on a les institutions publiques, on a l'enseignement, la formation. Donc vraiment, aujourd'hui, en fait, on peut constater que l'agilité, c'est un outil qui fait du lien dans tous les secteurs, aussi bien la créativité, l'innovation, la cohésion d'équipe, le management, la simplification des workflows. On a vraiment une plus-value de l'agilité. On constate que les entreprises qui se sont investies pleinement dans l'agilité sont aujourd'hui parmi les plus innovantes. Elles développent des systèmes de management performants. Vous connaissez certainement certaines de ces ce qu'on appelle les success stories, les entreprises qui allouent du temps à leurs salariés libres pour pouvoir travailler sur des projets d'innovation, des tout jeunes entrepreneurs mais avant même d'avoir le bac, qui développent des startups, qui deviennent de grands entrepreneurs. En fait, on peut se poser la question, est-ce que finalement ces personnes, ces entreprises, est-ce qu'ils ont un secret ? Est-ce qu'ils ont une recette miracle ? Est-ce qu'ils ont une recette miracle ? Est-ce qu'ils ont des mentors ? On cherche toujours des références. Qu'est-ce qu'ils mangent le matin ? Et si, en fait, je vous disais qu'en fait, les entreprises... Je vais retrouver mon anti-sèche. Si je vous disais qu'en fait, il n'y a pas de manière de faire. On me demande souvent, et qu'est-ce que je peux prendre comme outil ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'outil miracle. Si je vous disais qu'il n'y a pas de bonne manière de faire, qu'en fait, la recette miracle, elle n'existe pas. La meilleure organisation d'entreprise, elle n'existe pas. Et si je vous disais qu'en fait, tout ce que vous devez savoir, vous le savez déjà. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, vous le savez déjà. Vous l'avez déjà en vous. Vous avez déjà les ressources pour le faire. Le tout, c'est de savoir comment on va y aller. Alors, ça va nécessiter quelque chose. Quand on va essayer de changer, on va à un moment donné, vous avez compris, on va parler d'inconfort. Et oui, parce qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Et ça, il va falloir apprendre à le faire. Il va falloir aussi apprendre à pouvoir satisfaire ses propres besoins en misant d'abord sur les intérêts du collectif. Et ça ne va pas forcément être facile. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans un nouveau monde avec moi. D'imaginer que vous rentrez dans un nouveau monde, dans un monde où moins vous contrôlez les choses et plus les choses se passent comme ça vous arrange. Dans un monde où vous avez le droit de tenter ce que vous voulez. Vous avez le droit de tenter même tout ce qui ne fonctionne pas. Parce que vous connaissez bien la devise Shadok, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Dans un monde où votre pire ennemi peut devenir votre meilleur ami. Dans un monde où vous avez le droit de ne pas vous sentir toujours au top au quotidien. Vous pouvez être en colère, vous pouvez être triste, vous pouvez être très joyeux, très heureux, et vous avez même le droit de le dire. Vous avez aussi le droit de l'exprimer. Méfiez-vous des gens qui rient jamais, dit le proverbe. Ce ne sont pas des gens sérieux. Donc je vous propose de rentrer dans ce monde-là. Est-ce qu'a priori, vous avez envie ? Vous avez envie de tenter ? Vous pouvez le dire encore un peu plus fort ? Vous avez envie ?
Oui !
On ouvre la séance. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu d'où je viens. Je suis né à quelques brassées d'ici, dans la Manche. J'ai passé mes premières années sur une île. Alors quand on passe les premières années sur une île, il se passe certaines choses, on comprend que ça change souvent. Des fois, c'est un peu mouvementé même. On se prend quelques embruns. Mais on constate aussi qu'en fait, ça finit toujours par retomber à un niveau de calme, à un moment donné. Ça varie toujours. Et puis après, progressivement, j'ai, comme tout le monde, j'ai fait ma scolarité. J'ai été plutôt guidé par, par les... tout ce qui était scientifique. Donc j'ai étudié les mathématiques, la physique, la chimie. J'ai fini dans mes études en me spécialisant sur les systèmes d'organisation, le système de management de la qualité. Et donc j'ai étudié, ça m'a permis de découvrir tous les outils du Kaizen, les outils de résolution de problèmes, la compréhension des organisations aussi. Mais en parallèle de tout ça, j'ai toujours eu une passion depuis l'adolescence. Vous savez, ces pratiques qui se passent dans un dojo, vous voyez ? Donc j'ai commencé à pratiquer l'aïkido, j'ai pratiqué la méditation, un peu le tai chi et le yoga, j'ai été voir le qigong. Le qigong m'a vraiment passionné, je suis rentré vraiment dans l'énergétique chinoise, j'ai étudié ça, notamment avec la diététique chinoise aussi. Et puis, en continuant à pratiquer la méditation, je me suis intéressé en fait à ce que l'Occident comprenait de cela, avec le développement, entre autres, de la sophrologie, de l'hypnose, de la PNL. Et je continue toujours à travailler dessus en étudiant à la fois les philosophies orientales, les pratiques orientales, mais aussi toutes les découvertes occidentales. Vous connaissez hein, tout ce qui... On en parle beaucoup aujourd'hui, les neurosciences, la mécanique quantique, les nouvelles théories de communication. On a notamment la CNV qui se développe beaucoup. Et donc, en fait, en étudiant tout ça, je me suis rendu compte que est-ce que finalement, on n'est pas en train de parler de la même chose ? Tout ce qui concerne le changement, le management du changement. Vous savez, en Chine, l'écriture chinoise s'est construite depuis plusieurs millénaires sur la base d'un livre qui s'est constitué de manière empirique, qui s'appelle le Yi Jing, et qui signifie le livre des changements. Voilà. Et donc, en fait, on constate bien que le changement, il y a quelque chose qui nous parle. Pas toujours facile à appréhender, mais ça nous parle. Alors, j'ai identifié quelques points qui me paraissaient, qui m'ont concerné. Le fait qu'il est important d'observer les choses, d'être attentif, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Que toutes les choses fonctionnent en groupe, en système, il y a des interactions, ça bouge, il y a du mouvement. Et au cœur de tout cela, on a de l'humain. Voilà. Et réussir à comprendre tout ça, ce n'est pas forcément évident. Alors, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir ensemble les outils d'intelligence collective et c'est de commencer en fait, à poser des briques. Pour pouvoir générer justement cette intelligence du groupe. Donc, voir avec vous plusieurs briques. Ces briques-là qu'on va voir tout de suite. On va commencer par le changement, si vous voulez bien. Quand on parle de changement, c'est un problème d'actualité. On en parle beaucoup aujourd'hui. Mais moi, je me suis posé la question, est-ce que finalement le changement, c'est autant que ça un problème réellement actuel ? Est-ce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui nous concerne depuis tout le temps ? On n'a pas arrêté de changer, sinon on serait toujours en train de casser des cailloux. D'accord ? Par contre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le changement nous pose tellement de problèmes ? Est-ce que c'est parce que c'est plus rapide, ça change plus vite ? Est-ce que c'est parce qu'on entre dans une nouvelle ère ? Est-ce que c'est les réseaux sociaux, le fait que l'information circule de plus en plus vite? Est-ce que c'est parce qu'on est en train de fragiliser ou remettre en question un système d'organisation pyramidale? En fait, le changement, c'est le philosophe Bernard Nadoulet qui explique qu'une entreprise dans laquelle il n'y a pas d'ordre est une entreprise qui ne peut pas survivre. Mais une entreprise dans laquelle il n'y a pas de désordre ne peut pas évoluer. Ce que je me dis, c'est que finalement, aujourd'hui, en fait, ce qui fait la qualité d'une organisation, c'est pas tant sa structure que sa capacité à s'adapter. Donc réfléchir à ce point-là. S'il y a du changement, il faut qu'il y ait adaptation. S'il y a adaptation, il y a évolution. S'il n'y a pas d'adaptation, il y a destruction. C'est ce qui a toujours fait l'évolution des espèces jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est la première brique. Alors, je vais essayer de faire quelque chose avec vous. On va essayer de construire un truc, quelque chose. Voilà. S'il n'y a pas trop de vent, ça devrait bien se passer. On va poser une première brique, le changement. Ce que je vous propose sur cette première brique-là, c'est de poser qu'en fait, le changement, il est inévitable, il est permanent, il a toujours existé, il est là. Alors du coup, la problématique maintenant avec ça, c'est on fait quoi? Est-ce que c'est le changement qui pose problème? Est-ce que c'est pas plutôt la résistance au changement? Bon, mais le terme résistance, moi, il me pose un petit problème, c'est que j'aime pas trop les termes un peu négatifs comme ça. Et donc, je voudrais vous proposer, plutôt que de parler de résistance au changement, de parler de la proportion naturelle à vouloir rester en vie. Ça vous parle un peu plus, hein? Comment? C'est plus long, ouais, désolé. Ça rentre pas dans les cases, mais ça rentre pas souvent dans les cases. Ça me rappelle une petite histoire, il est toujours facile de faire rentrer un rond dans un carré, il suffit de taper assez fort. Bon, mais c'est hors de la conférence, ça. Faudra couper au montage. Ou pas. Vous avez peut-être entendu parler de Idriss Aberkan, le chercheur qui parle de ça au niveau des étapes de toute révolution ou innovation. Ça passe par ridicule, dangereux, évident. Donc, moi, j'ai noté deux, trois petites propositions. Hein. 16e siècle, l'héliocentrisme. La Terre tourne autour du Soleil. Ridicule, dangereux, évident. 19e siècle, l'abolition de l'esclavage. 20e siècle, le droit de vote des femmes. 21e siècle, Et puis 21e siècle, transversalité et organisation matricielle du travail. On en est où là-dessus? C'est ridicule, c'est dangereux, c'est évident. Donc, il y a cette question. Alors, vous avez entendu parler peut-être de Claude Bernard, le médecin, qui pose le principe d'homéostasie. C'est la propriété de tout organisme vivant à vouloir préserver son état d'équilibre. Donc en fait, la résistance au changement, c'est peut-être pas tant que ça quelque chose de ridicule. Hans Selye, sur ce qu'on appelle le syndrome d'adaptation générale, explique en fait quand il y a une stimulation extérieure, un stress extérieur, on a trois niveaux de réaction. D'abord, c'est la fuite. On va plutôt essayer d'éviter le problème. Ensuite, c'est la résistance. Ça va consommer de l'énergie. On tient. Si c'est trop long ou si c'est trop fort, on arrive à la troisième étape, que vous connaissez certainement, qu'on appelle c'est l'état de rupture ou d'abandon. C'est ce qu'on appelle burn-out. Voilà. Donc quand c'est cramé, c'est que c'est trop tard. Donc en fait, le problème avec le stress, c'est ça, c'est qu'il est ni bon ni mauvais. C'est juste qu'il y a un seuil, qu'il faut accepter le seuil. J'imagine que parmi vous, la plupart d'entre vous savent nager. Vous avez un brevet, vous savez nager 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Si je vous dis, tiens, demain, on va faire un petit test, tu vas nager 2 km. C'est possible que vous soyez comme ça, d'accord? Si vous faites un petit programme, vous vous entraînez, vous allez nager régulièrement, toutes les semaines, deux fois par semaine, au bout de 6 mois, je vous repose la même question, vous allez me dire, pas de souci, ça fait déjà un mois que je m'entraîne, il n'y a pas de souci, ça fait un mois que je fais 3 km, donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qui a changé entre deux? Ce n'est pas la difficulté qui a changé, la difficulté c'est la même. Par contre, l'écart entre la situation proposée et vos capacités, vos ressources, elle a changé. Et donc en fait, quelque part, c'est tout ça. Il faut accepter qu'on a le droit de se tromper. Si on veut essayer quelque chose, il va falloir essayer. Et si on veut essayer, il faut accepter qu'on puisse se tromper. Il est inhumain de croire que l'on peut évoluer sans stress. c'est la capacité même de survie, en fait. C'est grâce à ça qu'on peut avancer. Le tout, c'est de ne pas dépasser le seuil critique. Quel que soit votre challenge, moi, je peux vous garantir qu'il y a trois choses qui seront vérifiables. Un, vous pouvez réussir. Deux, vous allez vous tromper. Et trois, vous allez vous tromper autant de fois qu'il faut pour apprendre, acquérir des connaissances, des compétences, des capacités, jusqu'à ce que vous soyez capable de le faire. Une fois que vous serez capable de le faire, vous pourrez passer à l'étape suivante et recommencer à nouveau. Et en fait, c'est ce qu'a toujours fait notre évolution en permanence. D'accord ? Donc, c'est ce que disait Oscar Wilde. Hein. Il disait « L'expérience, c'est le nom que les gens donnent à leurs erreurs. » Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose de retenir sur la résistance au changement, c'est simplement qu'on a le droit de se tromper. C'est un droit fondamental, le droit à l'erreur. Sans ça, on n'apprend pas. Donc, voilà, retenez ça, le droit à l'erreur. On va arriver à la troisième brique. Hop, le droit à l'erreur, il arrive. La troisième brique, c'est l'excellence. Vous savez bien, quand on est dans une entreprise, dans un groupe, quand on participe à une association, c'est un lieu dans lequel on peut s'épanouir, on peut avoir des relations sociales, on peut apprendre, on acquiert des compétences, on apprend à devenir autonome, à se responsabiliser, à encadrer, à manager, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'une entité comme ça, un groupe, un collectif, a une raison d'être, a une finalité, une mission, des objectifs. Et donc, si on joue un rôle dans cette entité, ça veut dire qu'on va accepter nous-mêmes d'avoir une mission, d'avoir un objectif à atteindre, d'avoir un résultat à atteindre. Et si on cherche à atteindre un résultat, c'est qu'on cherche à être performant. La performance, c'est pas un mot péjoratif. Ça veut dire simplement atteindre la capacité à atteindre un résultat. Donc, il est important de savoir pourquoi je le fais. À qui ça va servir? Qui va être influencé par mes actions, par mes décisions? Quand vous lancez un projet, quand vous avez un projet que vous voulez expliquer, travaillez bien votre objectif. L'objectif, c'est le pourquoi. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer clairement pourquoi vous voulez le faire, comment vous voulez pouvoir motiver des collaborateurs à vous suivre? D'accord? Donc travaillez bien ça. C'est vraiment un point important. C'est Einstein qui disait « Si vous ne pouvez pas expliquer votre concept à un enfant de 5 ans, c'est que vous ne l'avez pas compris. » Donc il faut que ce soit le plus simple possible. Il faut être efficace, il faut être clair, il faut être simple. On va y revenir tout à l'heure dans les outils. Je vous mets une petite... comment on appelle ça déjà? Je vous mets un petit timbre dans la tête tout de suite. Canard en plastique. Retenez ça, le canard en plastique. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Vous connaissez ça? Donc travaillez-le, entraînez-vous à le faire. Il faut que ce soit extrêmement clair. Voilà. Alors, hop. Principe d'extension. Jusque-là, ça va. Après, c'est la suite qui va se compliquer. Alors, la quatrième étape, en fait, ça va être la systémique. Alors, je suis désolé, je vais faire tomber un mythe. Au cas où, chez vous, parmi vous, il y a des scientifiques. La vie n'est pas une équation mathématique. On a essayé. Alors, moi, j'ai étudié un petit peu les maths, pas beaucoup. Je me suis arrêté assez rapidement. J'ai vu le danger venir, je me suis dit, hop, on va prendre une autre voie. Au début, quand on apprend les maths, on fait une équation. A plus B égale C, jusque-là, ça va. Il y a une inconnue, deux inconnues. Bon, ça se complique un petit peu. Et à un moment donné, on vous rajoute un epsilon. Alors, vous dites, c'est quoi epsilon? C'est pas grave, t'inquiète pas, c'est négligeable. C'est juste que de temps en temps, bon, faut une petite variable d'ajustement parce que l'équation, elle n'est pas tout à fait exacte. En fait, vous allez vous rendre compte dans la vie que c'est epsilon qui vous pourrit la vie au quotidien. Voilà, ça ne marche jamais et c'est à cause de epsilon. D'accord ? C'est la loi de Murphy. Hein, tout ce qui peut mal tourner, tournera mal. Voilà. Autrement dit aussi, toute tâche prend tout le temps qu'on lui donne. D'accord ? Donc ça, c'est le problème, c'est la systémique. Quand on fonctionne avec une équation en permanence, on finit toujours par rechercher un coupable. Hein, pourquoi ça ne marche pas comme c'était prévu? Bon. Donc il va falloir essayer de trouver un peu une autre solution, voir comment on peut fonctionner autrement. Pourquoi ça ne se passe jamais comme prévu? Hein, parce que voilà, l'équation, elle est là. C'est donc Gregory Bateson de l'école Palo Alto qui a beaucoup travaillé sur les principes systémiques. qui explique que, ben, bien sûr, les propriétés d'un ensemble n'est pas est différent de la somme des propriétés individuelles. Vous le connaissez très bien, pour ceux qui suivent les sports collectifs ou qui en pratiquent, une équipe performante, ce n'est pas avoir que des premiers, les meilleurs à chaque poste. C'est des gens qui savent jouer ensemble. Voilà. Donc toute la systémique, ça va être ça. Ça va être de réussir à pouvoir jouer ensemble. Alors, mais le problème, c'est que ça a l'air un peu compliqué quand même. Alors pourquoi on le fait si c'est compliqué ? Parce que réussir à appréhender le groupe, ce n'est pas forcément évident. Pourquoi alors ? Pourquoi est-ce qu'on y va vers le collectif ? Ben voilà, c'est ça. Le collectif est plus fort. Et la nature nous le montre bien. La meilleure solution pour résister aux intempéries, c'est de se regrouper. Hein, quand vous regardez les dunes, là, ça c'est des dunes en bord de mer où il peut y avoir des grosses tempêtes. Vous avez des herbes qui poussent très haut. A priori, toute seule, elle ne tient pas. On se regroupe et là, on tient. Et c'est comme ça qu'on tient le mieux, effectivement, les dunes. Donc, effectivement, la force du groupe. Donc, moi, ce que je vous propose de retenir sur le côté systémique, alors, c'est là où il faut que ça tienne. Yes. Retenir sur le côté systémique, c'est que, un, le collectif est plus fort à long terme. Et deux, cela nécessite de placer les intérêts collectifs avant les intérêts individuels. Ça vous va, ça ? La cinquième, du coup, si on veut travailler en groupe, ça va être de miser sur la confiance. Alors, autant les quatre premières briques sont des briques assez, je dirais, solides dans le principe chinois, yin-yang, on dirait que ce sont plutôt des principes yin, c'est plutôt, ça ancre, c'est assez solide. Maintenant, on va plutôt arriver à des choses plus légères, plus subtiles, qui mettent du lien dans tout ça. La confiance, c'est la face pile d'une pièce de monnaie. L'être humain n'est pas fait pour vivre tout seul, on a forcément besoin des autres. Pour vivre. Ça, c'est un principe fondamental, on peut pas éviter. Par contre, du coup, ça suppose qu'il faut qu'on accepte le risque qui va avec. Et le risque qui va avec, c'est le côté face, c'est la trahison. Il faut faire confiance, sachant qu'on a toujours une faiblesse. Alors, il y a Michela Marzano qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est une philosophe italienne, qui explique qu'en fait, si on n'accepte pas le risque de la relation humaine qui échappe au contrôle, qui échappe à la maîtrise, si on n'accepte pas ça, on perd la confiance. Il faut accepter la relation avec le risque qui va avec. Et c'est en acceptant ce risque que la confiance grandit. D'accord ? Donc le principe de confiance, c'est ça. Le philosophe écossais, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Adam Smith, au XVIIIe siècle, qui expliquait que parmi les hommes, les dispositions naturelles les plus disparates sont utiles les unes aux autres. Deux siècles avant lui, Wang Yongming, un philosophe chinois, au XVIe siècle, disait « La multitude des différences crée l'unité ». Donc bien sûr qu'on a besoin de diversité, c'est essentiel. Le problème, ce n'est pas de savoir comment je vais être certain que tout se passe comme je veux, comment je vais être certain que les autres vont être à la hauteur de mes attentes. Enfin, la vraie question, c'est de savoir comment je vais pouvoir accepter le risque qui va avec. Le risque de défaillance, le risque, l'incertitude. Comment je vais accepter ça ? C'est ça vraiment la vraie recherche. Les managers savent bien, je sais que parmi vous, il y en a, la confiance ne s'acquiert pas en gouvernant avec des règles qui s'appliquent à 5% des non-responsables et des non-loyaux. On le sait bien. Donc moi, ce que je vous propose, en fait, c'est ça. C'est de proposer que en fait, la confiance, c'est un apprentissage à avoir, c'est apprendre à lâcher prise. La confiance, en fait, c'est ce qui reste quand on n'a plus aucune certitude, quand on est en dehors du contrat. À un moment donné, il faut se bander les yeux, il faut avancer et se dire « Ok, on y va ». D'accord ? Apprendre à compter sur les autres et accepter les risques qui vont avec. Voilà, la confiance. Quand je vous dis qu'il faut avoir confiance, je l'applique, là. Mais on va y arriver. Alors, du coup, maintenant qu'on a la confiance, on va appréhender quelque chose, c'est-à-dire c'est la communication. Dès lors qu'il y a relation aux autres, dans un groupe, il y a forcément communication. Le groupe de Palo Alto, l'Institut de recherche mentale, a beaucoup travaillé sur les théories de la communication sociale. Il nous apporte plusieurs éléments. Il nous apporte que, d'une part, on ne peut pas ne pas communiquer. C'est obligatoire. Enfin, c'est inévitable. Il nous apporte que la relation est plus importante, compte plus que le message. Et moi, je dirais aussi que le moment où on communique le plus, c'est le moment où on dit rien. Pourquoi ? On écoute en partie, ouais. En fait, on croit que la communication, c'est échanger des informations, des points de vue, des opinions. En fait, le plus souvent, ça s'appelle rompre l'inconfortable silence. Et pourquoi c'est inconfortable le silence ? Oui, entre autres. Oui, si on remplit parce que c'est inconfortable. Vous connaissez certainement ça. Parce qu'en fait, le silence fait passer, bien sûr, toute la communication non-verbale. Et vous le savez bien, 50% de la communication est non-verbale. 38% de la communication est paraverbale, l'intonation, le rythme, etc. Il ne reste que 7% pour les mots. Du coup, réfléchissez à ça comme vous envoyez un texto. Tiens, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez lever la main, les gens parmi vous, qui ont des enfants de moins de 10 ans ? Alors, je vais vous poser une question. Réfléchissez bien et levez la main si c'est oui. Est-ce que vos enfants sont capables de vous faire comprendre leurs besoins sans utiliser de mots ? Oui. Bon, vous avez bien entendu la phrase, je la répète. Hein. Est-ce que vos enfants sont capables de vous faire comprendre leurs besoins sans utiliser de mots ? Okay. Maintenant, pour tout le monde, c'est applicable. Échangez le mot « enfant » par le mot « conjoint ». Est-ce que ça marche ? Ouais. Des fois, il faut mettre quelques mots dessus. Mais en général, ce n'est pas l'essentiel. Il faut avoir confiance. Donc en fait, le grand problème de la communication, c'est que le plus souvent, elle est inconsciente. Elle dépend de notre humeur, de notre état d'esprit. Elle dépend de notre histoire personnelle. D'accord ? Donc ça, c'est toute la difficulté. C'est que finalement, pour être vraiment réel dans sa communication, ça ne va pas être évident. Ce qu'on appelle vérité, en fait, c'est un jugement totalement personnel. On a tous un décodeur en nous. Et ce décodeur, en fait, filtre la réalité. Ce décodeur, c'est notre éducation, nos valeurs, etc. Et en fait, ce qu'on appelle vérité, c'est l'image qui est formée par ce décodeur. Ce qui fait que, si vous regardez bien, en fait, dans toute communication, ben, il y a des erreurs. Et dans tout ce qu'on observe, ce qu'on pense être la vérité, c'est notre vérité. C'est donc Paul Watzlawick, du groupe Palo Alto, il dit « De toutes les illusions, la plus périlleuse est de croire qu'il n'existe qu'une seule vérité ». Donc ça, il faut bien observer ça, parce que finalement, quand vous dites « oui, si, je sais, j'ai raison », eh bien, c'est pas gagné. Si vous observez bien votre communication au quotidien, vous allez voir, on passe notre temps, en fait, à avoir des différences de point de vue avec les différentes personnes que l'on rencontre. Donc du coup, on argumente. Et si vous observez quand il y a un désaccord, le plus souvent, les deux parties ont raison. Sauf qu'on ne parle pas de la même chose. D'accord ? Donc du coup, si on veut essayer de communiquer à peu près correctement, moi je vous propose quelque chose au niveau de la communication. Je vous propose de réfléchir à ça. Vous pouvez toujours dire ce que vous pensez, mais ça n'a pas grande importance en fait. Par contre, regardez ça, essayez de dire ce que vous ressentez. Parce que ce que l'on ressent, c'est ce qui vient du cœur, c'est là où se trouve la vraie relation à l'autre. Si on dit ce que l'on ressent, ça change complètement les choses. Et ce que je peux vous garantir, moi, c'est que si vous faites ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous n'avez pas à avoir peur d'avoir tort. De toute façon, vous n'êtes pas le seul à avoir raison. On est plusieurs à avoir raison. Donc ce n'est pas grave, on a le droit de dire ce qu'on veut. D'accord ? Donc ça, c'est sur la communication. On va en arriver à la dernière brique. Ça marche. La dernière brique, c'est l'authenticité. Alors, l'authenticité, en fait, ça parle d'une dimension qui, pour moi, est très importante. C'est une dimension qui nous perturbe assez souvent, qu'on voudrait bien pouvoir mettre de côté, de temps en temps. Ça nous faciliterait bien les choses. Mais c'est à peu près la chose la plus importante parce que c'est ce qui nous fait littéralement avancer. C'est quoi ? Ce sont nos... Alors, j'entends valeur et besoin. J'ai pas dit oui. Pour moi. Presque. Pas loin. Nos émotions. C'est Thomas d'Assembourg sur la CNV qui explique que si vous ne vous occupez pas de vos émotions, vos émotions s'occuperont de vous. Les émotions, en fait, c'est la première chose que l'on exprime. Et le problème, c'est qu'en fait, le plus souvent, c'est la communication inconsciente qui exprime l'émotion. C'est la gestuelle, c'est la posture, c'est le ton de la voix, etc. Vous savez, quand vous entrez dans un restaurant, en réunion, une soirée entre amis, vous avez cette première impression. Vous dites « Waouh, c'est génial, il y a une super ambiance, il y a une super déco, la musique, j'adore. » Ou alors, combien de temps on a dit là ? Qui c'est qui nous a invités ? C'est quoi ? T'as l'heure du jour ou... D'accord ? Est-ce que vous pensez vraiment que cette première impression, elle est nourrie d'une réflexion rationnelle, ayant pesé le pour et le contre, avec toute absence de jugement personnel ? Est-ce que vous y croyez ? Ben non. Et oui, parce que le problème, c'est que cette réaction, elle est le fruit de notre perception personnelle, de notre histoire, de nos valeurs. Et elle est aussi le fruit de notre besoin personnel, là, ici, maintenant. D'accord ? Donc si on accepte qu'on est d'abord guidé par nos émotions, on peut peut-être apprendre à les accepter et peut-être aussi à les exprimer. On peut apprendre à peut-être s'accepter tel que l'on est, avec nos qualités et nos défauts. Accepter les autres tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Et surtout, éviter de juger. Le juger, c'est là. D'accord ? Alors, vous savez bien, on a des expressions au quotidien assez classiques. Hein. Il est plus facile de dire « c'est de sa faute » parce que... Plutôt que, quand j'entends ça, je me sens frustré parce que j'ai besoin de... D'accord ? C'est facile de dire « oui, c'est bien ». Plutôt, et c'est peut-être plus difficile de dire « j'aime bien ». Plus engageant. Quand vous exprimez ce que vous ressentez, ça amène un pourquoi. Et là, on avance. Vous pouvez dire à quelqu'un « je pense que tu devrais faire ». Il est peut-être plus difficile de dire « tu sais, je me sens un peu seul sur le projet. J'aimerais bien sentir que je peux compter sur toi. Est-ce que tu serais d'accord pour... » Les choses vont être un peu différentes. Vous pouvez avoir un non, mais ça peut être un oui. Et ça peut être plus agréable. Dans la communication positive, c'est le principe qui est pris par Norman Kers pour les rétrospectives. On considère que chacun fait de son mieux compte tenu de ce qu'il savait à ce moment-là, de ses compétences, de ses capacités, des ressources disponibles et de la situation. Donc on va essayer de supposer que chacun fait de son mieux. La communication tombe. Donc voilà, moi ce que je voudrais terminer pour dire sur l'authenticité, c'est ça. C'est que les émotions, on ne peut pas les éviter. Si on les accepte, ça peut devenir une force. Si on les réprime, elles peuvent nous pourrir la vie. Et vous le savez très bien, comme dit le bon proverbe, on n'est pas responsable de la tête que l'on a, mais on est responsable de la gueule que l'on fait. Donc voilà concernant les 7 piliers d'agilité que je voulais partager avec vous. Et donc, avec ces 7 piliers, on va essayer de se nourrir. En fait, de nourrir une posture. De nourrir une posture qui va nous permettre de pouvoir déployer des outils. Voilà. Essayer de grandir pour utiliser correctement des outils. Les outils vont nous servir à tout un tas de choses. La créativité, innover dans le management, la cohésion de groupe, la résolution de problèmes, conduite de projet, etc. Mais bien sûr, vous l'avez bien compris, si on veut utiliser des outils un peu nouveaux, changer de posture, il va falloir sortir de sa zone de confort, parce que c'est là où tout se produit. Donc il va falloir gérer l'inconfort. À votre avis, lorsque l'on fait un atelier de travail collectif, est-ce que ça ressemble plutôt, est-ce que c'est proche d'un dîner de famille, est-ce que c'est proche d'une soirée entre amis, ou est-ce que c'est proche d'un débat? Alors, qui vote pour un dîner de famille? Personne. Vous avez raison. Est-ce que ça se rapproche d'une soirée entre amis? Il y a quelques mains. Ça fait plaisir. Désolé. Est-ce que ce serait plutôt le débat? Voilà. Désolé. Aucun des trois. Alors du coup, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise en fait le plus un atelier de travail collectif? L'indice que je vais vous donner, c'est que je l'ai déjà dit tout à l'heure. En fait, on va essayer d'aller... Voilà. On va essayer d'aller... En fait, on va essayer de travailler ensemble vers un objectif collectif, commun. De partager ensemble le même objectif. Donc c'est un défi, travailler ensemble. Ça veut dire qu'il va falloir poser des règles, qui sont les règles du collectif. Les règles, il va falloir les expliquer. Il va falloir qu'elles soient comprises, acceptées et appliquées. Et vous voyez, il y a toujours le petit Shadow qui est là. Ça veut dire que comme c'est nouveau, on va se donner aussi le droit à l'erreur. On a le droit de se planter quand on fait ça. On va apprendre en marchant. C'est tout à fait logique. Et donc, pour que tout ça se passe bien, en fait, en tant que participant, on va avoir un rôle. On va jouer un rôle. On n'est pas nous-mêmes, on joue un rôle. Ce rôle, c'est d'accepter de s'exprimer en étant le plus intègre possible. Dire clairement ce que l'on pense, mais aussi ce que l'on ressent. Ça veut dire qu'en termes de temps de parole, je vais accepter de pouvoir prendre la parole et aussi d'écouter celle des autres. De suivre une méthode, un séquençage. Je peux toujours refuser de participer, mais je n'ai pas le droit d'empêcher les autres de travailler. Et puis enfin, c'est ce que j'accepte d'écouter deux fois plus que je parle. C'est ce que disait Confucius. Si on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois et parler une fois. Voilà. Et donc, pour garantir le rôle de chaque participant, on a un facilitateur, un animateur. Et donc, moi, je lui ai donné six commandements. Les six commandements du facilitateur, c'est faire respecter les règles, protéger chacun dans sa parole, dans son opinion, que chacun puisse s'exprimer librement, garder la neutralité, surveiller la montre, proposer en fin d'atelier, en fin de réunion, un bilan. Il faut qu'il soit fait. Et puis, s'il y a des volontaires, c'est toujours bienvenu de demander leur assistance pour mettre en place les tables, pour ranger, pour faire la vaisselle, pour faire un compte-rendu, pour tenir la montre, tout ce qu'on veut. Et puis, bien sûr, il y a les règles de communication positive qu'il est essentiel de montrer, d'expliquer, de rappeler. Nous, au conseil départemental du Calvados, quand j'anime des ateliers, on ne fait pas sans poser les règles et les rappeler. C'est essentiel. Sinon, on ne sait pas c'est quoi le point commun, c'est quoi le cadre. Donc au moins, on rappelle et tout le monde est d'accord qu'on l'a bien relu. Alors voilà. Et avec ça, on va essayer de travailler ensemble. Alors la première chose, quand on travaille en collectif, c'est d'essayer d'enlever les barrières. D'enlever tout ce qui peut gêner la relation. Dans la communication non-verbale, il y a tout ce qui est environnement de travail. Donc, moi, mon premier point, c'est virez-moi ces tables. D'accord ? Sauf si on a vraiment besoin d'écrire, de travailler en îlot, spécifiquement en petits groupes. Autrement, ça ne sert à rien. Ça gêne. Regardez chez vous, quand vous invitez des amis, que vous voulez être confortable à discuter. Vous mettez autour d'une grande table à manger qui fait 3 mètres de long ou dans le salon avec une petite table basse dans les canapés. D'accord ? Donc en fait, quand on veut être en convivialité, on va essayer de favoriser ça. Favoriser aussi tout ce qui va être bénéfique à construire ensemble. Pour écrire, écrivez sur le paperboard. Partagez, partager le même support d'écriture. On partage tous les mêmes choses. L'icebreaker, on va y venir, c'est ce qui va permettre de... Donc c'est un brise-glace, c'est ce qui va permettre de changer un petit peu l'état d'esprit, d'amener de la convivialité, de sortir du cadre. Et puis le principe TOT, qui est connu de certains, je pense, en PNL, c'est le droit à l'erreur. Test, operate, test, exit. On essaye, on se plante. On réessaye, on se replante. On re-re-essaye. Et quand ça marche, étape suivante et on recommence. Voilà. Donc c'est apprendre et apprendre et apprendre, toujours. Je ne sais pas si certains parmi vous ont vu le troisième épisode de Kung Fu Panda. Je change de sujet. Kung Fu Panda. Vous avez vu Kung Fu Panda ? Alors moi, j'ai retenu une phrase. J'ai adoré. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est génial. Le grand maître, il dit... le tout petit maître, il dit au grand panda, il lui dit, je savais très bien que tu en étais incapable. Si tu te contentes de faire ce que tu sais faire, tu n'apprendras jamais rien. Voilà. Aller faire du kung-fu à un panda, c'était pas gagné d'avance. Bon. Revenons au collectif. Les icebreakers. Alors... Je vous en ai mis quelques-uns ici. L'arbre à personnages, pour que chacun puisse exprimer son ressenti dans un projet, dans un groupe. Le fameux mind map de Jürgen Apello. Des outils ici, c'est pour stimuler un peu l'auto-organisation, l'esprit d'équipe. Marshmallow Challenge, bâton d'hélium. Il y a aussi le jeu de la balle, je vous montrerai tout à l'heure. Il y a des jeux sur la créativité, jeu du trombone, il y a Lego Créa. Il y a tous les outils qui existent, enfin tous les jeux qui existent dans le théâtre d'improvisation, qui sont très très bien pour sortir un peu de sa zone de confort. Mais surtout, je vous dirais bien, sortez d'ici et allez en bas. Enfin, pas tout de suite, hein, après. Allez en bas et allez voir tout ce qui se passe dans le hall, puisqu'il y a énormément de jeux qui vont être proposés, qui vont être montrés. Donc profitez-en d'être ici pour aller voir tout ce qui se passe. Ces icebreakers, ils sont essentiels pour changer de posture. Leur seul intérêt, c'est ça, c'est de changer de posture. Donc c'est s'autoriser un peu à changer d'espace. C'est les enfants, hein, ils n'arrêtent pas de jouer. Et on dirait que, voilà, bah c'est bien, on dirait que, on commence par ça. Une fois qu'on a changé un peu la posture, on va pouvoir travailler. Et on va travailler avec un autre état d'esprit. Voilà. Alors maintenant, on va arriver au temps de la production. Alors ici, ça va commencer à se corser un petit peu. Quand on va commencer à produire, une des premières choses qu'on fait, c'est une checklist. Voilà, un bout de papier, et puis on fait la liste. Bon, avec ça, après, on se dit, OK, maintenant, je suis bien embêté, je commence par lequel. Et donc, moi, ce que je vais vous proposer déjà, c'est utiliser une priorisation à deux entrées. On va en reparler tout à l'heure, je vais vous montrer un support. Mais deux entrées, typiquement, le plus simple, c'est urgence, importance. Rien que ça. Ça vous permet tout de suite de planifier et de gérer vos priorités. Quand on est en groupe, on va passer par un brainstorming. Brainstorming, il a une règle fondamentale, le CQFD. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est pour censure critique interdite. On ne s'interdit rien. Q pour quantité. On produit le maximum d'idées. On sait bien, de toute façon, il y a le principe de Pareto qui dit que 20% des causes sont responsables de 80% des conséquences. Donc ça veut dire qu'il y a 80% des idées d'origine qu'on ne prendra pas. Et c'est très bien. Ça en fait beaucoup moins à faire. Sauf qu'il va falloir, falloir choisir. Après le brainstorming, on va utiliser un métaplan, qu'on appelle aussi le diagramme des affinités. C'est ranger les idées par paquet commun, par chose commune. J'ai mis le mind map avec le métaplan parce qu'en fait, quand on monte un métaplan correctement, qu'on a les premiers titres, les deuxièmes titres, l'idée centrale, etc., et qu'on le lit à l'envers, vous le retournez, vous faites un résumé et vous obtenez un mind map. Donc en fait, ces deux principes qui vont bien ensemble, deux outils qui vont bien ensemble, ils ne présentent pas les choses de la même manière, mais ils se construisent exactement à l'inverse. Il y en a un qui est descendant et l'autre qui est plutôt montant. Ou plutôt, il y en a un qui concentre et l'autre qui expanse. Peut-être plus juste de le voir comme ça. Alors quand on va faire un travail comme ça, si vous faites des petits groupes, vous présenterez les choses d'un groupe à l'autre, vous pouvez faire une présentation l'un après l'autre, c'est toujours bien. Mais c'est un peu plat. Le vernissage est intéressant. Le vernissage, c'est proposer aux participants de papillonner, d'aller voir ce qu'on fait les uns les autres. Ça favorise l'échange, la discussion. C'est peut-être un peu moins intimidant pour certains de parler. Voilà, on peut poser les questions en direct. Donc ça, c'est pour le partage. Et puis, Après, ces idées, en fait, on va essayer de les planifier, d'engager le travail. Et donc là, on va arriver avec le Kanban, dont la version informatique, c'est le Trello, qui est un super, super outil. Ça prend un peu de temps à découvrir, hein. Faut pas se le cacher. Moi, j'ai mis un an à observer. J'ai regardé de loin, je fais « ouais, j'irai bien, mais je vais attendre ». Voilà, bon, parce que fallait aussi, faut que ça mature, faut sentir prêt. Donc essayez tranquillement, plantez-vous, faites des ratures, effacez tout, recommencez, c'est pas grave, c'est de l'apprentissage. Voilà, le Kanban, en fait, c'est là qu'il faut écouter, Kanban. Non, parce que ça, c'est un private joke à côté, vous aviez qu'à être là avant l'atelier. Et donc, en fait, le Kanban, c'est ce qu'on appelle un système à la carte. Ça a été découvert par un entrepreneur japonais. Il va dans un site naturel, un parc naturel, et on lui dit, bah non, il n'y a plus de place. Bon, bah oui, parce que c'est réservé, en fait, on a un seuil maximum de personnes. Donc là, c'est plein, donc il va falloir attendre que quelqu'un sorte pour qu'on puisse vous donner sa carte, et du coup, vous pourrez rentrer. On dit que... Arrêtez de prendre des nouvelles choses, commencez par terminer ce que vous avez fait. Stop starting, start finishing. Donc c'est ça, le Kanban, c'est juste ça, c'est un système à la carte. Bon, après, il s'est complexifié. Hein, on l'a développé, on l'a rendu plus pertinent, mais en fait, c'est juste ça. Plus on a de tâches en cours, et moins on avance. Hein, autrement dit, plus on pédale moins vite, et moins on avance plus vite. Il faut 2 à 3 minutes pour changer de sujet. Quand au niveau cérébral, il faut 2 à 3 minutes pour se réadapter à un nouveau sujet. Donc si on a autant de sujets, on multiplie par 3 minutes et ça vous donne tout le temps perdu dans la journée. Donc en fait, le principal, c'est de se concentrer sur des tâches et d'aller jusqu'au bout. C'est un principe Kanban. Après, on va le développer dans le Trello. Vous pouvez y joindre mettre des pièces jointes, vous pouvez dire qui travaille sur quoi, on peut utiliser il y a le système un peu de discussion en ligne. Bon, c'est très très riche. Ça, c'est les bienfaits de l'informatique, là-dessus. Voilà, ensuite, on va arriver au temps de la décision et des engagements. Alors là, ça va être un petit peu lourd, parce que c'est un gros problème de savoir le fameux « qui fait quoi ?». Voilà. Alors, je vous ai quand même mis le vote, hein, parce que le vote, c'est intéressant quand vous avez le fameux brainstorming, le Kanban, que vous avez une somme d'idées, ben, le fait de voter... Par préférence, ça vous permet de hiérarchiser assez rapidement. Le fameux tableau de délégation, je vous invite à aller voir le livre de Jürgen Appello. C'est extrêmement intéressant parce que ça vous permet, en tant que manager, en tant que chef de projet, de voir à quel niveau vous déléguez les actions à vos collaborateurs. Pour certains cas, vous êtes en complète délégation. Moi, je te fais confiance, vas-y, il n'y a pas de souci. Dans d'autres cas, ben, vous annoncez, tu vas faire ça. Ouais, ce n'est pas une question, c'est comme ça. Des fois, vous allez le vendre, vous allez consulter pour après décider ou avoir un accord. Il y a plein de niveaux différents. Ça va changer en fonction de vous, en fonction peut-être des projets, des sujets, en fonction des personnes avec qui vous le faites. Donc faites-le, échangez-le et faites en sorte que ce soit accepté, que ce soit compris aussi. Et vous avez peut-être aussi des personnes qui vont vous dire moi, je veux qu'il y ait un contrôle. Hein. Je ne pars pas comme ça tout seul. Hein. Donc, en fait, c'est aussi le niveau d'autonomie, de responsabilisation des personnes. Et l'avantage, c'est qu'on le met noir sur blanc et c'est visible. Voilà. L'élévateur pitch, on va y revenir, c'est du Lean Startup, c'est pour lancer très rapidement des sujets. Le fameux canard en plastique, le principe du KISS, Keep It Simply Simple. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est, pour faire référence encore à tout à l'heure à ce que disait Einstein, piquer un canard en plastique à vos enfants dans la baignoire ou aller en acheter un, vous mettez votre canard devant vous, vous lui expliquez le plus clairement possible votre objectif, et s'il ne répond pas, vous simplifiez. Voilà. Donc, la technique du canard en plastique, c'est ça. Faites simple. Voilà. Vous parlez à un enfant de 5 ans. Point. Alors ensuite, on va parler du what to do, objectif smart. Le what to do, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On ne vise pas à 6 mois, on vise demain. Demain, qu'est-ce que je fais? Du coup, maintenant qu'on a échangé tout ça, du coup, on fait quoi? Voilà, action à court terme. L'objectif smart, vous ne pouvez pas éviter d'en parler. Hein, objectif smart, spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporel. Voilà, au moins, vous avez fait le tour de la question, vous savez, vous avez où vous allez. Comme dit, vous connaissez le proverbe, hein, tout objectif flou mène à une erreur précise. Donc, clarifiez l'objectif. Voilà. Comme vous êtes en réunion, quand vous lancez un projet, alors on a le RACI et le RADI. Il n'y a pas d'ES à RADI. Le RACI et le RADI. Le RACI, c'est pour commencer les choses, on établit qui est responsable, qui est acteur, qui est consulté, qui est informé. Faites bien ce petit tableau-là, mettez en face quelle communication vous prévoyez avec chacun. Vous allez économiser 50% de vos mails et vous allez arrêter de polluer la boîte mail de ceux qui n'ont pas besoin de recevoir le mail à ce moment-là. Voilà. Et ça, au moins, ça va être très clair pour tout le monde. Et le RADI, en fait, c'est simple, c'est un petit acronyme. Hein. C'est le relevé des actions, décisions et informations. C'est une petite checklist pour être sûr qu'on a bien balayé le tout. Voilà. Donc ça, c'est riche. Hein. Alors, il ne faut pas faire tout à chaque fois. Hein. Je vous rassure, hein. Vous allez piocher. Après, au bout d'un moment... Moi, je vous envoie toutes les recettes et après, en fonction de comment vous sentez les choses, vous prendrez ce que vous avez envie. Voilà. Et là, maintenant, on va arriver au petit temps de l'inconfort collectif. Parce qu'effectivement, en groupe, à un moment donné, va falloir se mouiller. Il va falloir apprendre à s'exprimer, à dire comment on ressent les choses. Donc, on peut apprendre aussi déjà à dire merci. C'est bien de dire merci, on ne le dit pas assez souvent, ça ne coûte rien, ça fait super plaisir, on ne le dit jamais. Hein, alors que par contre, ce qui est désagréable, on le dit souvent. Hein, donc en fait, apprenez à dire merci, particulièrement à quelqu'un qui vous a aidé à faire un truc qui vous bloquait, vous dites « Ah, mais c'était mon boulot ». Oui, mais merci quand même, parce que moi, j'étais dans la mouise là. Donc grâce à toi, j'ai réussi, ça m'a vraiment aidé. Apprenez à écouter. Clairement, ce que dit quelqu'un, ça c'est compliqué ça. Écoutez vraiment, hein, l'écoute active. Il y a des stages hein, pour ça, mais c'est compliqué. Donc le bâton de parole, hein, bien sûr, si on écoute, hein, si on fait circuler un bâton de parole, ça peut être utile. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, des peluches, tout ce que vous voulez. Le tout, c'est que chacun ait son temps pour parler, clairement. Donc quand il y en a un qui a le micro, ça veut dire que les autres écoutent. Voilà. Et puis, je vous ai mis le petit bonhomme de la CNV, là, hein, parce que pour moi, c'est super important de pouvoir s'entraîner à le faire. C'est pas facile, mais c'est un bon guide. On observe quelque chose. Donc, j'ai une observation. J'observe que je ressens, j'entends, j'écoute, je vois. De ce que j'observe, je vais ressentir. Donc, je peux dire ce que je ressens. J'ai un besoin. Moi, personnellement, j'ai un besoin. Et éventuellement, ça va m'amener à formuler une demande. Voilà. Pour pouvoir satisfaire ce besoin par rapport à l'émotion que je ressens, etc. C'est Marshall Rosenberg qui a fondé ça, dit que la violence n'est que le constat, non, n'est que la manifestation d'un besoin non exprimé, non satisfait. Je vais y revenir. N'est que la violence est la manifestation d'un besoin non satisfait. C'est quand même assez dramatique. Si on arrivait à réussir à exprimer clairement le besoin, ça irait beaucoup mieux. Voilà. Donc l'inconfort collectif, il faut vraiment travailler dessus. La rétrospective, c'est un des outils essentiels en agilité. Quand on fait un point projet, on ne va pas se poser la question bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, parce que ça, c'est du jugement. On va plutôt dire qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce qui me gratte. Voilà. Pour moi, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe pas bien. Mais c'est moi personnellement, comment je le ressens. On va pouvoir aussi s'en servir pour voir comment ajuster les choses. Est-ce qu'il y a des actions qu'il faut arrêter, commencer, continuer, réduire, augmenter. Je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai un support. Et puis je vous invite à aller voir, à aller faire un tour du côté de la sociocratie. Je crois qu'il y a un atelier aujourd'hui, je ne sais plus à quelle heure. Notamment avec l'élection sans candidat. Alors en fait, la sociocratie, c'est un outil excellent pour pouvoir donc créer de la cohésion de groupe, faciliter l'échange, et puis réussir à identifier des personnes qui vont représenter un groupe pour avoir une entité représentative. Mais pas, on ne va pas élire quelqu'un en disant « voilà, ben, toi, tu es le chef, donc tu vas représenter ton équipe ». Non, 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 non. C'est trop facile, ça. Non, on va demander à identifier parmi le groupe qui, à votre avis, serait celui qui pourrait le mieux représenter la parole du groupe, dans l'intérêt du groupe. Or, niveau hiérarchique. Donc je vous invite à creuser un petit peu ça. C'est très intéressant. C'est pareil, ça s'apprend, c'est pas super simple. Enfin, simple, si, c'est simple. Pas super facile. Ah oui, retenez bien, je voulais vous le dire tout à l'heure, dans les outils. Dans le Kaizen, moi, quand j'ai appris ça au début, dans les outils, il y avait plein d'outils, les Caredas, les 8D, enfin, des méthodos hyper compliqués. Maintenant, on vous dit, c'est clair, si ta méthode a plus de 4 étapes, c'est pas la peine, c'est trop compliqué. Il faut que ce soit simple. Voilà. Plus c'est simple, plus c'est efficace. Voilà. Et donc, je voudrais quand même vous parler de ça, le temps des remerciements. Moi, ce qui me fait le plus plaisir dans un atelier, c'est pas que ça marche. Hein. Bon, parce qu'il y a d'autres trucs qui marchent. Hein. Sous la torture, ça marche vachement bien aussi. Non, en fait, ce qui est vraiment satisfaisant, c'est quand vous sentez que les personnes ont pris du plaisir à participer. Quand on vous dit « j'ai apprécié la convivialité », ça m'a donné une bouffée d'oxygène de pouvoir participer à des projets, être impliqué, me sentir écouté et pas jugé. Voilà. La liberté de parole. Donc en fait, ça, c'est vraiment ce qui va créer la cohésion du groupe, l'intelligence collective. Une fois que vous avez ça, après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc effectivement, bien souvent, quand on fait un travail de groupe, ça arrive quelquefois que l'on va vraiment prendre une session de travail pour parler, pas de boulot. On n'est pas là pour faire le schéma directeur du truc, on s'en fout. On est là pour savoir on est qui et qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Ça, c'est essentiel. Moi, dernièrement, j'ai fait un atelier avec un groupe qui se connaissait depuis très longtemps. Hein. Enfin, ils bossaient depuis 7 ans, 8 ans ensemble, ils se connaissaient très bien. Ce qu'on a fait ressortir comme ça, ils ont dit, ben, c'est quand même surprenant, ça fait 7 ans qu'on bosse ensemble, on ne s'était jamais dit. Juste, on a envie de bien communiquer ensemble, on a envie de bien bosser ensemble. Ben, c'était peut-être quand même pas mal de se le dire, au moins une fois, voilà, d'être d'accord sur ça. Voilà. Alors, je vous mets quelques outils en vrac qui sont des supports. C'est pas les meilleurs, c'est juste un exemple de ce que vous pouvez prendre. Alors, je vous les ai mis en vrac parce que j'ai essayé de trouver un lien logique. Et en fait, ça m'a rappelé que quand vous demandez en général à un agiliste de vous trouver une logique dans les supports, en général, il fait cette tête-là. Voilà, donc c'est en vrac. Alors, la carte de l'empathie. Il faut apprendre à servir son client. Votre client, c'est votre collaborateur, c'est toute personne avec qui vous travaillez. La carte de l'empathie, ça montre qu'on a envie de comprendre celui ou celle pour qui on fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il entend, c'est quoi ses problèmes au quotidien, est-ce qu'il a peur de quelque chose, est-ce qu'il faut le rassurer, et au bout du compte, c'est quoi son besoin. En fait, pourquoi je le fais. Et on va vraiment écouter la personne, on va essayer vraiment de se mettre à sa place. Ça a été beaucoup utilisé dans les startups informatiques. Donc, par rapport à vos téléphones, pensez-y, hein, si c'est si ergonomique, c'est parce qu'on s'est mis à la place de vous. Il va prendre une tablette, il ne va rien comprendre, il va s'imaginer qu'il peut tout de suite tout comprendre. Ouais, ben, ça fonctionne. Pas parce que, voilà. Après ça, on passe nécessairement par l'elevator pitch, c'est clarifier son intention. Je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que ça peut vous pouvez le trouver sur Internet, ça. Mais c'est la petite phrase pour expliquer bien clairement votre produit, votre service, votre projet. Qu'est-ce que ça apporte? En quoi c'est différent des autres? C'est quoi sa catégorie? À quoi il répond? À quel besoin il répond? Une phrase simple. Si vous êtes en équipe, ce n'est pas forcément évident d'avoir une phrase qui convient à tout le monde. Et ce n'est pas grave. Le tout, c'est d'avoir un accord commun. Voilà, on arrive à la fin. Donc, la rétrospective qui permet d'expliquer ça me plaît, ça me gratte, c'est l'évaluation de satisfaction. On peut aussi l'utiliser pour décider dans un projet, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, je continue, je réduis, j'augmente ou j'arrête, et ce qu'il faut commencer. Alors, tout ça, on peut le faire en brainstorming avec des post-it, etc. C'est un support. Le what to do, alors tiens, je vais vous poser une question. Objectif SMART, à votre avis, dans ces 5 propositions, laquelle est SMART? Qui vote pour la 1? Qui vote pour la 2? Qui vote pour la 3? Qui vote pour la 4? Qui vote pour la 5? Bon. C'est la 4. Pourquoi c'est pas la 3? Pourquoi c'est pas la 2? Ouais, voilà, 15 kilos en 3 jours, on sait pas faire. Pourquoi c'est pas la 3? Bah parce que faire des progrès, ça veut dire quoi? C'est savoir mettre une case en couleur ou savoir faire un tableau croisé dynamique et mettre toutes les formules qui vont bien? C'est pas assez spécifique. Pourquoi c'est pas la 5? C'est pas réaliste. Je veux bien. Hein. Bah parce que ça veut dire quoi être de bonne humeur? C'est sourire. C'est pas assez clairement décrit. Comment?
Oui.
Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est... J'ai pas besoin d'être calme, j'ai besoin qu'on arrête de m'énerver.
On a le droit de pas être devenu.
Aussi, mais c'est pas la question, là. Voilà. Bon, la gestion du temps, je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein. Importance. Pardon. importance, urgence. Voilà. Organisez ça. Si c'est urgent, important, il faut le faire vite. Si c'est important, mais c'est pas urgent, on le planifie. Si c'est ni l'un ni l'autre, on se pose vraiment la question, est-ce qu'il faut vraiment le faire? Est-ce que ça gêne quelqu'un si je ne le fais pas? Hein, voilà. Et puis la délégation, si possible, ou bien à faire quand sur des moments un peu intermédiaires. Le fameux Kanban, donc c'est pour éviter d'être complètement perdu dans qu'est-ce que je fais quand. Hein. Donc on a une réserve d'idées, on va sélectionner ce qu'on veut faire. J'accélère un peu parce que le temps court. Après, on va mettre des choses en cours. On peut en avoir en attente. Et le but du jeu, c'est de terminer. Vous avez vu qu'il n'y a pas la même quantité à la fin qu'au début. C'est normal, c'est que les autres, ils attendent d'être prêts. D'accord ? Donc, en général, dans un Kanban, on va essayer de dire en cours, ici, je peux en prendre combien ? Je peux en prendre combien en cours, maximum ? Voilà. Le jeu de la balle, c'est un des jeux super simples. C'est simple, c'est convivial, c'est dynamique. Dynamique de changement, auto-organisation, voilà. C'est facile. Pareil, allez voir sur Internet, vous le trouverez facilement. Il y a les règles, c'est tout simple. Et ça met une bonne ambiance, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque de se tromper. Ça marche à tous les coups. Voilà. Et puis, je vais vous présenter celui-là. Très content de partager avec vous ça. Je sais qu'il y en a qui vont être sensibles dans la salle. C'est au conseil départemental du Calvados, on a utilisé un speedboat, brainstorming stratégique, pour un séminaire de cadre. Et ça, c'est un outil super intéressant. Moi, ce que je suis très content, c'est qu'effectivement, en travaillant avec le Conseil départemental du Calvados, ben, pouvoir avoir la chance de pouvoir développer des outils d'agilité dans une institution publique, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Ça montre qu'on peut le faire vraiment dans tous les cas. Il n'y a pas de limite à pouvoir utiliser des outils. Il faut juste se jeter à l'eau. Et voilà. Enfin, et pas s'accrocher aux ancres. Accrochez-vous au bateau. Hein. Voilà. Je termine par la dernière chose. Les fameuses règles de communication. Faites pas un atelier sans ça. Elles sont disponibles sur Internet, publiées par le Work Lab de Sacha Lopez. Utilisez-les, c'est facile, c'est simple. On met tout le monde d'accord. Ça évite de faire la loi. Voilà, au moins on sait ce qu'on va suivre. Sacha Lopez, il est marqué, je vais arriver là. Je vais le marquer. Voilà, donc, le temps de mes remerciements. Moi, je dois remercier le Club Agile, qui m'a permis d'évoluer, d'apprendre beaucoup de choses, avec son fondateur, Jean-Luc Lambert. Le département du Calvados, au sein duquel on peut développer plein de choses, et c'est une vraie chance de pouvoir avoir une collectivité dans laquelle on peut travailler en agilité. Tous les auteurs qui nous donnent des bouquins, donc Sacha Lopez, Jürgen Appello, David Autissier, Jean-Marie Mouton, les rétrospectives agiles, les game storming, alors vous en avez pléthore de jeux, d'outils, etc. Surtout, prenez pas tout. Hein. Essayez de pas faire toutes les recettes du monde entier en même temps, vous allez vous planter. Voilà, donc prenez un bouquin, lisez-les, prenez-en un de temps en temps, puis voilà, mettez les barres progressivement. Il faut aller doucement. Voilà, voilà tout ce que je voulais remercier. Et je voulais vous remercier, vous, pour votre attention. N'oubliez pas, quand vous allez sortir, de faire la petite rétrospective sur la table avec un post-it pour me donner votre avis. C'est important pour moi d'avoir votre retour, ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. Et puis, voilà. Merci à vous. Merci.